Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. On ne se quitte plus tout au long de l'été. On vous proposera de réentendre certains des grands reportages réalisés pour les carnets du monde cette saison écoulée. Alors c'est toujours dur de choisir, mais cette sorte de best-of va nous permettre de nous souvenir des moments forts de l'année et d'entendre combien le monde change. Exemple, en décembre dernier, géniale campagne de pub de la régie des transports berlinois dont les trains et les bus sont réputés être sales, chers et en retard. Elle postulait pour entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Je trouve ça super mignon que la BVG cherche à polir son image. Parce que là, par exemple, le M41, vous pouvez l'attendre longtemps et tout d'un coup, il y en a trois en même temps.
C'est sympathique, la capacité à rire de soi-même, c'est quand même très cool.
Sympathique aussi, dans un autre genre, les graffitis d'amour qui s'affichent sur les murs ou les chaussées. En Italie du Sud, c'est presque une tradition.
On les trouve dans n'importe quel lieu public, mais aussi par terre, sur le bitume. Surtout quand c'est le cas d'une déclaration d'amour de la part d'un prétendant. On en trouve aussi sur les arbres, soit ce sont des incisions, soit carrément des graffitis sur l'écorce des arbres.
On vous emmènera aussi en Inde pour déguster une petite mousse. Et oui, figurez-vous qu'à Bangalore, la capitale technologique du sud du pays, des dizaines d'énormes brasseries artisanales ont fleuri. Et tout le mois d'octobre, c'est Oktoberfest version indienne.
Je travaillais dans l'informatique, mais j'ai décidé d'arrêter pour lancer deux microbrasseries et notre business a complètement explosé. Au total, on produit 40 000 litres par mois qu'on distribue dans 92 bars différents de Bangalore.
Et tout ça, c'était avant le coronavirus, avant les confinements. On reviendra sur cet étrange printemps avec un témoignage très intéressant sur Venise, qui est passé de l'envahissement des touristes au désert complet.
Pour moi, Venise, c'est une métaphore du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on était tous lancés à une espèce de train d'enfer en voulant toujours plus de profit, plus de croissance, plus de consommation, plus de voyages, plus de pollution, plus. J'avais le sentiment d'être dans un train fou. Et très souvent, je me disais, mais enfin, je voudrais descendre du train, en fait.
Voilà, et puis chaque dimanche cet été, on réécoutera l'une des chroniques dont Joseph Chovanec a le secret, entre moments de philo, de poésie et de rigolade aussi. Les carnets d'été sont ouverts, et c'est d'abord à Berlin que l'on retourne.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
C'était en décembre dernier, alors qu'en France nous étions jusqu'au cou dans les grèves des transports publics, notamment à Paris, Hélène Kohl nous avait emmené prendre les bus et métros de Berlin. Un coup de projecteur assez surprenant sur la BVG, ça s'écrit BVG, c'est en quelque sorte la RATP de Berlin, une régie coutumière des coups de pub spectaculaires. Sa dernière campagne d'affichage, par exemple, ces derniers jours, c'est un grand appel à ne pas mettre de déodorant cet été, histoire d'inciter les passagers à porter un masque pour se protéger des odeurs corporelles du voisin. Malin et rigolo alors que les Berlinois se relâchent un peu, eux aussi, avec les gestes barrières. En décembre dernier, l'idée saugrenue de la BVG avait été de postuler pour entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est très sérieux. Et en l'espace de 2 semaines à peine, près d'1 million de personnes avaient apporté leur soutien au dossier de la régie des transports publics de Berlin. À croire que c'est un service 5 étoiles de monter dans un métro ou un bus là-bas. C'est la première question que j'avais alors posée à Hélène Kohl.
Eh ben non, en fait, pas du tout. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas souvent des grèves, mais en revanche, c'est sale, c'est cher, les machines à tickets ne prennent que des pièces, carrément ne fonctionnent pas, le chauffage, lui, fonctionne trop, il y a très, très, très souvent des retards. Certains disent qu'ici, à Berlin, c'est un peu la quintessence de ce que l'humanité peut produire de pire en termes de transport public, mais c'est aussi une expérience unique, une sorte de trésor immatériel en danger, car la ville s'internationalise, se modernise, etc.
Mais heureusement, il y a un endroit où Berlin reste Berlin. Une constante, immuable et rassurante. Nous, la BVG.
Et voilà la BVG qui nous dit qu'il faut savoir défendre les fondamentaux et c'est pour cela qu'elle postule à l'UNESCO pour faire protéger par exemple la légendaire rudesse mal léchée de ses chauffeurs de bus comme Stefan Hess avec lequel j'ai pu embarquer il y a quelques jours dans son bus.
Je mets déjà la main sur le klaxon. Parce que là-bas, tu vois, la route a un décrochage. Et je te parie que le Gus, il ne va pas le voir. Regarde. Baf. T'as vu? En plein sur la ligne, le mec. Toujours pareil ici. Alors paf. Je distribue les bons points.
J'adore. Dans le clip de candidature pour l'UNESCO, Hélène, on voit d'ailleurs comment un chauffeur reprend un usager. C'est plutôt vert, hein?
Et figurez-vous que c'est justement notre Stéphane, hein, celui avec lequel j'étais dans le bus. La réplique de la vidéo est déjà culte ici. Alors, il traite le passager qui avale un kebab dans son bus de Flitzpieper. Alors, c'est un mot tout droit sorti du vieux jargon de Berlin. Assez difficile à traduire, c'est un peu le zigoto, mais beaucoup moins politiquement correct. Et c'est très bien comme ça, nous dit Stéphane, et aussi son patron, Frank Büchel, qui est le responsable communication de la BVG et qui nous attendait au terminus du bus.
Nos chauffeurs sont de vrais Berlinois. Et ici, on a le cœur sur la main. Mais on a aussi notre franc-parler. Évidemment, pour la campagne de pub, on pousse le curseur, mais ce n'est pas si loin de la réalité.
J'ai déjà eu beaucoup de situations où j'ai dû hurler dans le micro. Enfin, moi, je me passe généralement du micro, je peux gueuler bien plus fort. Mais je crois en fait que beaucoup de gens ne comprendraient pas si on se comportait différemment. C'est le message de cette campagne. Il faut défendre cette manière d'être, sinon les gens vont être perdus.
Je reçois même déjà des plaintes, des gens qui viennent du monde entier et qui tombent sur un chauffeur super sympa. Ils ne comprennent pas pourquoi il ne les houspille pas. Généralement, je leur réponds que c'est parce qu'il n'a pas encore fini sa formation.
Ah d'accord, les touristes voudraient de l'authentique. Mais les Berlinois, Hélène, eux, qu'est-ce qu'ils en disent au quotidien? On a quand même plutôt envie d'avoir des transports fiables, non?
Oui, bien sûr, mais l'autodérision de la BVG leur plaît aussi. Écoutez ces usagers.
Je trouve ça super mignon que la BVG cherche à polir son image. Parce que là, par exemple, le M41, vous pouvez l'attendre longtemps et tout d'un coup, il y en a trois en même temps.
C'est sympathique, la capacité à rire de soi-même, c'est quand même très cool.
Rien n'est cool à la BVG. Elle est ringarde à tout point de vue et très sale. Oui, très sale et de plus en plus sale même. Mais moi qui suis berlinoise, ça ne me choque pas.
Et puis comme le rappelait un précédent spot de la BVG cet automne, les Berlinois adorent râler. Alors c'est aussi une sorte de service public en fait que de leur offrir l'occasion de gueuler comme ça tous les jours. Okay. Merci BVG, nous t'aimons tant. C'est d'ailleurs le slogan officiel de l'entreprise.
Idée de génie quand même, mais c'est gonflé.
Oui, alors surtout que les Allemands sont quand même pas les champions du monde de l'ironie et du second degré. Ouais. Frank Büchel, le directeur communication et marketing, m'a dit d'ailleurs qu'il avait eu du mal à imposer l'idée à ses patrons. Ouais. Mais en fait, il y avait vraiment urgence à agir. Tout est parti d'une étude sur l'image de l'entreprise il y a 5 ans.
Si la BVG était une personne, à quoi ressemblerait-elle? Les gens ont répondu un fonctionnaire de 55 ans, gros et chauve. Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on rajeunisse, qu'on soit plus moderne, plus innovant.
Ah bah, il partait de loin quand même, hein?
Ouais, Frank Büchel et ses équipes se sont en fait assez vite rendu compte que la BVG n'avait absolument aucune chance de briller avec ses qualités. Ouais. En revanche, elle était championne en dysfonctionnement et donc il y avait peut-être un coup à jouer autour des défauts de l'entreprise. Et donc ça fait 5 ans que l'idée est déclinée comme ça par plusieurs agences de pub sur les réseaux sociaux notamment, avec aussi des vidéos et certains spots sont devenus au fil des années absolument mythiques. Par exemple, un des tout premiers qui nous montrait comment la BVG avait une sorte de centre de recherche secret pour identifier la meilleure façon de faire des annonces au micro complètement incompréhensibles. Après avoir essayé les bonbons pour la toux, le pâté de foie, visiblement la clé c'est d'avoir la bouche pleine de chamallows.
Effectivement.
Alors ensuite, les chauffeurs vont à l'entraînement pour apprendre à conduire le plus brutalement possible ou réaliser des chefs-d'œuvre comme ce fameux tableau formidable, la Mona collée contre Lisa aux heures de pointe, c'est bien connu quand on est tous tassés. Ouais. La maîtrise du retard aussi, c'est tout un art dans lequel excelle notre ami Stéphane.
Combien de retard avons-nous maintenant? Que dit le moniteur? 9 minutes, ouais. Mais je pense qu'on va réussir à descendre à 8 minutes de retard. 8 minutes, c'est normal. 8 minutes, c'est presque un délai où tu peux dire que tu es à l'heure. Non, 8 minutes, c'est super. Allez, si je fais un effort, peut-être que je vais faire 7. Promis, j'essaie. Ah, le feu passe au rouge, oublie. Ça sera 11 minutes.
Le plus dingue, Hélène, c'est que ça marche.
Oui, la BVG a la possibilité régulièrement de mesurer son image avec des indices de microéconomie très sérieux. Hein. Et il y a une très très grosse progression en 5 ans. Elle a aussi nettement plus d'utilisateurs réguliers et surtout beaucoup plus de jeunes. Mmh. Il y a même quasiment une sorte de hype. Je me souviens quand la BVG avait lancé une édition collector de chaussures de sport avec le motif ringard rouge et bleu des banquettes en sky du métro. Et imprimé sous la languette de la chaussure, il y avait un titre de transport valable un an entier. Mmh. Et bien, certains ont fait la queue pendant plusieurs jours pour avoir une paire. Et puis, il y a aussi cet énorme coup aussi il y a quelques années, un concert de U2 sur la ligne U2, enfin la ligne U2 ici, avec Bono en chanteur du métro.
Et les salariés ?
Alors ils sont fiers, nous dit Franck Buch.
Avant la campagne de communication, beaucoup n'aimaient pas trop dire qu'ils travaillaient pour la BVG, parce que tout de suite, on leur répliquait que les bus étaient en retard, que ceci, que cela. Donc, ils préféraient répondre qu'ils travaillaient pour un prestataire de service. Mais ça a changé depuis 5 ans.
En fait, comme Stéphane, hein, ils sont plutôt flattés de faire partie de cette entreprise qui a vraiment modelé la ville depuis plus d'un siècle et de porter haut les couleurs de cette culture populaire de la capitale allemande, des vrais Titi berlinois. Et puis en plus, soyons terre à terre, Sophie, plus d'utilisateurs, ça veut aussi dire plus d'argent dans les caisses. Et au printemps dernier, il y a eu 8% d'augmentation pour tous les salariés.
Attitude géniale hein, de la BVG, la régie des transports berlinois. Je n'ai pas trouvé où en était l'examen de son dossier à l'UNESCO. En tout cas, on adorerait voir la RATP s'inspirer de cette autodérision. À suivre, des mots d'amour écrits en gros sur les murs, parfois depuis très très longtemps. On sera dans le sud de l'Italie dans un instant.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h, nous sommes avec Sophie Larmoyer. Également parmi les meilleurs moments des carnets du monde, ce coup de projecteur sur des mots d'amour qui s'affichent en grand sur les murs. Et ça se passe dans le sud de l'Italie.
Et c'était cet hiver, 2 jours après la Saint-Valentin, formidable prétexte pour évoquer ces messages d'amour qui s'affichent parfois en grand dans les rues. Dans le sud de l'Italie, il y a comme une tradition des graffitis amoureux. On peut trouver ces mots d'amour sur un mur, sur la route, sur un panneau, une statue, partout en fait. Et dans toutes les villes, ici c'est à Palerme que Cécile Debarge les avait repérés. Voici son reportage.
À l'ombre des grands arbres de la place Tredici Vittime, à Palerme, Giacomo ponce un vieux banc en verre décati avant de lui donner un coup de pinceau. Ce trentenaire fait partie de Retake, une association qui nettoie et valorise les espaces publics de la ville en traquant déchets, saletés et surtout graffitis, dont une bonne partie sont des mots d'amour.
On les trouve dans n'importe quel lieu public, mais aussi par terre, sur le bitume. Surtout quand c'est le cas d'une déclaration d'amour de la part d'un prétendant. On en trouve aussi sur les arbres, soit ce sont des incisions, soit carrément des graffitis sur l'écorce des arbres.
À quelques mètres de là, les colonnes de marbre du parc de la Villa Giulia ont été recouvertes d'une date et des 2 prénoms d'un couple, successivement effacés d'une grosse couche de peinture noire, sûrement après la rupture, imagine Giacomo.
C'était sûrement la date à laquelle ils s'étaient mis ensemble ou bien la date du jour précis où ils étaient là-bas, allez savoir. Ce graffiti avait été recouvert d'une peinture noire hyper épaisse et d'ailleurs ça avait été vraiment difficile de le nettoyer, sauf qu'une fois qu'on a fini, on a fait ressortir le premier graffiti amoureux.
L'amour indélébile a ses désavantages, s'amuse Giacomo.
On a imaginé la tête de ces deux-là qui repasseraient par cet endroit, qu'ils verraient et se rappelleraient de l'époque où ils étaient heureux, mais surtout se demanderaient qui avait bien pu faire ça, qui avait bien pu faire ressortir ce graffiti que l'un des deux voulait effacer à tout prix.
Car lorsqu'on clame son amour haut et fort, on doit souvent faire la même chose lorsque l'histoire prend fin. Maura, 18 ans, le voit souvent sur les murs de son lycée.
Quand tu es amoureux, c'est un moment où tu es complètement transporté par tes sentiments. Et tu serais prêt à faire tout et n'importe quoi. Tu ressens ce besoin de faire quelque chose, d'écrire sur ce mur qui appartient à tout le monde. Ça veut dire que tout le monde peut le voir et c'est un message fort qui s'adresse à tous.
À tout le monde, autant à la personne aimée qu'aux voisins et aux amis. Une habitude qu'on retrouve dans les quartiers les plus populaires de la ville, comme à Piazza Maggiore, où un petit groupe d'adolescents tue le temps, assis sur les murets qui entourent un jardin mal entretenu. Parmi eux, Teresa, 15 ans, un graffiti à son actif.
Moi, j'en ai fait un pour une copine, pour lui souhaiter son anniversaire. C'est venu comme ça, du cœur. C'est sorti tout seul. Ça lui a tellement plu qu'elle en veut un autre.
La plupart du temps, les messages de ces graffitis amoureux sont bien plus poétiques que de simples « je t'aime » ou des citations trouvées sur Internet.
T'es entré dans mon cœur comme un pénalty. Ou bien des poésies genre stylo bleu, stylo rouge, mon amour. Je sais pas en fait, un truc du genre.
Pour l'anniversaire de Teresa, son petit copain a peint sous son balcon « Bon anniversaire princesse ».
Je me suis penchée et j'ai vu ce graffiti. Et ça m'a plu. Je m'y attendais pas, c'était une super belle surprise.
Assis à côté de Teresa, Francesco, 15 ans aussi, a reçu plusieurs graffitis de ses ex-petites copines. Lui n'en a jamais fait, pas assez amoureux, reconnaît-il, même si les garçons s'y adonnent autant que les filles.
J'ai vu des mecs en faire parce qu'ils tiennent à leur copine.
Pour Teresa et Francesco, le graffiti, c'est la preuve d'amour ultime.
Pour moi, c'est mieux un graffiti, parce qu'un cadeau, tu peux le jeter. Mais un graffiti, chaque fois que tu passes devant, même sans y penser, tu le vois.
Le graffiti survit au temps, surtout. Au 1er siècle après Jésus-Christ, déjà les hommes et les femmes gravaient au stylet leurs sentiments amoureux. À 700 km de Palerme, plus au nord, on les a retrouvés partout sur les murs de la cité antique de Pompéi. Près de 2000 ans plus tard, on retrouve les mêmes phrases, les mêmes mots d'amour sur les murs de Naples.
Ce qu'on essaiera de faire aujourd'hui avec notre visite au Musée archéologique national de Naples, c'est de se replonger dans le monde des anciens et dans leur rapport à l'amour, à travers l'histoire des habitants de Pompéi et du monde antique en général.
Pasquale Licardo est guide et archéologue. Il a déchiffré patiemment toutes ces phrases en latin, parfois obscènes, parfois plus tendres ou philosophiques, comme celle exposée face à lui.
Celui qui aime, vit. Celui qui ne sait pas aimer meurt. Et celui qui interdit l'amour meurt deux fois. Disons qu'avec cet exemple, on revient à l'amour au sens le plus platonique. Parce que ce n'est pas forcément une histoire de pulsion ou de sexualité, mais du véritable amour. Dans la mentalité des Romains, l'amour n'est pas honteux.
La sexualité non plus ne l'est pas pour les Romains, explique Pasquale Licardo, c'est aussi naturel de faire l'amour que de manger. Sur le mur de l'une des villas de Pompéi, la maison de Salluste, un graffiti a immortalisé le nombre de conquêtes d'habitants de l'époque.
On parle de ces deux hommes qui s'appellent Éphébé et Crisippo et qui se vantent tous les deux de s'être accouplés chacun avec trois femmes dans cette maison en une seule nuit. On comprend que la sexualité des Romains est très liée pour eux à la virilité de l'homme et à l'homme conquérant.
Aux côtés des mots d'amour ou des commentaires sur leurs ébats, les Pompéiens se vantaient de victoires militaires, de campagnes politiques. Tout ce qui, à l'époque, façonnait leur personnage social et leur prestige au sein de la société, l'amour y avait une place de choix. Cécile Debarge, de Palerme à Naples, Europe 1.
Reportage de Cécile Debarge qui vit dans cette région du sud de l'Italie et depuis plusieurs années, elle collectionne d'ailleurs des photos de ses graffitis amoureux, déjà plus de 200 clichés. Et Cécile était venue en parler dans les carnets du monde avec Rémi Bost-Saron qui présentait l'émission ce jour-là.
Ils expriment tout un tas de choses. On a toute la palette du sentiment amoureux. On a l'amour fou, l'amour trahi, l'amour impossible. C'est d'une créativité infinie, j'en ai pas deux. Qui soit identique. Et c'est ça qui m'a tout de suite marqué. Ce n'est pas des messages copier-coller, c'est celui qui écrit le message qui met ses tripes sur la table. Et par exemple, à Nichemi, qui est une ville moyenne dans le sud de la Sicile, un graffiti disait, je cite, « Seul un amour impossible peut être éternel ». C'est l'illustration parfaite de la part de drames, de passions qui vont souvent de pair avec le sentiment amoureux, ou tout au moins dans cette partie de l'Italie. On a aussi celui qui a été trompé, qui veut humilier son ancien conjoint sur les murs de la ville. Je l'ai vu une fois, c'était sur le mur d'un cimetière, toujours en Sicile. Et puis, l'un des graffitis qui devient un grand classique, c'est la demande en mariage. J'en ai photographié plusieurs. L'un d'entre eux disait « Tu seras toujours dans mes pensées, je t'aime, veux-tu m'épouser ?» Ça, c'était à Acitrezza, qui est un port de pêche au sud de Catane, donc c'était sur les murs du port. C'est ça que j'aime, c'est qu'on ne connaît jamais la fin de l'histoire.
Et on ne sait jamais non plus qui a fait ce graffiti, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, ça peut être les deux. On a bien entendu ce que disaient les adolescents Francesco et Teresa dans votre reportage.
Oui, exactement. C'est assez marrant d'ailleurs parce que quand je les ai rencontrés, Teresa demande à Francesco, son ami, s'il a déjà fait des graffitis amoureux. Et il répond assez nonchalant, l'adolescent, que lui n'est pas du genre à en dessiner mais plutôt à en recevoir. Ouais. Donc en réalité, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est courtisé plus qu'il ne courtise, ce qui est l'opposé complètement du cliché qu'on peut avoir sur un certain type de séduction à l'italienne où la femme attendrait que l'homme lui manifeste son intérêt sans rien faire. Et c'est d'ailleurs pas du tout quelque chose de nouveau. Au musée archéologique de Pompéi, plusieurs graffitis ont été réalisés par des femmes. Il ne faut pas croire que c'était forcément tarte à la crème ou romantique. Je vous donne un exemple. L'une de ces femmes s'appelle Virgola, puisqu'elle a signé de son prénom. Elle s'adresse à Terzio, son amant, et elle lui dit « In de chance, es, donc en latin, tu es indécent, en référence sûrement à sa fougue ou son appétit sexuel. C'était on était en 79, pardon, après Jésus-Christ.
Oui, donc c'est vraiment l'intimité là qu'on expose comme ça sur les murs, au-delà des sentiments. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer en France.
Ben oui, il faut s'imaginer qu'on parle d'endroits où on vit différemment l'espace public. Les gens vivent dans la rue, ils se retrouvent dehors. C'est évidemment une question de météo, mais ça structure surtout différemment la société. Si on prend l'exemple des graffitis écrits sur les trottoirs, en réalité, c'est pour qu'ils soient vus du balcon ou des fenêtres, exactement quand il y a des dizaines, voire des centaines d'années, les hommes chantaient la sérénade sous le balcon des femmes. Et de fait, ils faisaient participer absolument tout le monde. C'est comme si, d'une certaine manière, pour avoir encore plus de force et d'intensité, le sentiment amoureux devait être exposé aux yeux de tout le monde.
Ouais, et alors, quand ce sentiment disparaît, il faut aussi que tout le monde le sache, visiblement, puisqu'au début de votre reportage, il y a ce graffiti recouvert de peinture noire. Et en fait, c'est sans doute parce que le couple s'était séparé. Ça veut dire qu'on s'aime en public, mais on se sépare aussi en public.
Ouais, c'est ça. J'ai rencontré une anthropologue qui m'a raconté cette anecdote un peu irréelle. Et pourtant, c'était il y a plusieurs dizaines d'années dans certains villages siciliens. Et pour se séparer, les habitants du village traçaient une ligne sur le sol, une ligne rouge, qui partait de la maison du mari jusqu'à celle de la famille de l'épouse. Tous les proches de l'un et l'autre pouvaient écrire, en fait, de part et d'autre la ligne des reproches. Ça semble impossible pour nous, mais cet anthropologue me disait la phrase suivante. Ce qui nous caractérise, ce sont les relations qu'on a aux autres. Donc quand quelqu'un part de votre vie, il va falloir redéfinir notre propre identité pour la faire renaître différemment.
Voilà, et on imagine le gros défouloir de part et d'autre de la ligne rouge dans le village. Les graffitis amoureux dans l'Italie du Sud, c'était un joli reportage signé Cécile Debarge au cœur de l'hiver et qu'on avait bien envie de réécouter en ce début de grandes vacances estivales.
Europe 1, les carnets du monde.
La suite des meilleurs moments des carnets du monde avec Sophie Larmoyer. Et en ce début d'été, quand il fait chaud, certains apprécient une petite bière bien fraîche. Nous voici partis dans des brasseries plutôt inattendues.
Quand on parle d'une petite mousse, on pense à Lille, Bruxelles, Munich bien sûr avec Oktoberfest. Beaucoup de micro-brasseries artisanales ont fleuri aussi un peu partout en France. Mais en tout cas, on pense beaucoup moins à l'Inde. D'autant que dans beaucoup d'États indiens, l'alcool est taxé, très contrôlé, voire interdit. Pourtant, le pays vit une vraie révolution de la brasserie. C'est notre correspondant là-bas en Inde, Côme Bastin, qui nous avait raconté ce phénomène. Parti de Bangalore, une ville du sud du pays, souvent présentée comme la Silicon Valley indienne, en 5 ans seulement, 60 brasseries gigantesques ont fait de Bangalore le paradis des amateurs d'Indian Pale Ale et autres mousses artisanales. Des maîtres brasseurs affluent de Belgique, d'Allemagne ou du Canada pour surfer sur cet Eldorado du houblon. À l'occasion de l'Oktoberfest à l'automne dernier et sous la mousson, Côme Bastin nous avait emmené en vadrouille. Voici son reportage.
Nous sommes à Ennur, un des nouveaux pôles d'activité et de vie nocturne de la bouillonnante Bangalore. Assis sur une des 2500 chaises de la brasserie Big Brewski, Martin Bernard, un brasseur canadien, présente sa cuvée.
Ben ici, on a une blanche, recette de Belgique, alors orange coriandre. Très rafraîchissante, puis c'est la bière préférée des Indiens. Ici, on a une rock beer, un style allemand, du malt fumé à la tourbe. Les clients qui aiment beaucoup le scotch, le whisky, vont l'adorer. Ici, à côté, un cidre de pommes. On le fait avec un concentré, car les pommes, ça pousse surtout au Cachemire. Puis en ce moment, vous savez ce qui se passe au Cachemire.
Comme beaucoup des micro-brasseries de Bangalore, Big Brewski a la folie des grandeurs. Ouverte il y a un an, elle se présente comme la plus grande brasserie artisanale d'Asie.
Sur presque 2 hectares de terrain, on est parti de rien du tout. On a décidé qu'on voulait avoir un effet très jungle et naturel. On a fait une cascade avec un grand bassin d'eau, avec des nénuphars, des pierres. Tout est faux, mais tout est vrai.
Martin fait partie de la nouvelle génération d'entrepreneurs venus du monde entier pour brasser à Bangalore. Parmi eux, on trouve aussi Bénédicte Scholl, un Munichois qui s'occupe des cuvées de 46 Wands. Cette brasserie est née d'une co-entreprise entre Indiens, Allemands et Américains. Et ici, tout a été pensé pour rappeler les célèbres Biergarten, les jardins à bière de la capitale bavaroise.
Hallo, ich heiße Benedikt, bin 24 Jahre alt, komme aus München.
Je m'appelle Bénédicte, j'ai 24 ans et je viens de Munich, où j'ai appris à brasser. Ici, nous proposons des bières allemandes, comme la Hefeweizen, une blanche typique de l'Oktoberfest de Munich. La seule différence avec Munich, c'est qu'on peut rester ouvert l'hiver et qu'il y a des palmiers. Et selon les jours, on sert aussi des plats allemands, Sauerbraten, un bœuf aigre doux, des schnitzels ou des saucisses.
Avec son gazon en plastique, ses larges tables en bois et ses guirlandes, ce Biergarten n'a pas poussé là par hasard. Il est installé au cœur d'Electronic City, un des quartiers d'affaires et de technologie de la ville. Parmi les entreprises qui ont leur siège, on trouve la multinationale allemande Siemens, dont les salariés plébiscitent évidemment ce petit bout d'Allemagne sous les tropiques. Alors qu'elle se termine le 6 octobre à Munich, l'Oktoberfest dure à Bangalore jusqu'à la fin du mois. Et sous la mousson tardive, l'Indien Narayan Manapalli organise justement une soirée inspirée des nuits bavaroises.
You have the pride of winning beer games. And are we giving beers?
And when I was living in the US,
avant je travaillais à Portland dans l'Oregon, c'est la mecque de la bière artisanale aux États-Unis. J'ai décidé que je voulais revenir ici pour que les Indiens aussi puissent avoir accès à de super bières.
I used to work with Intel.
Je travaillais dans l'informatique, mais j'ai décidé d'arrêter pour lancer deux microbrasseries et notre business a complètement explosé. La nouvelle génération raffole des bières brassées. Par exemple, on propose une IPA baptisée Kamacitra. Au total, on produit 40 000 litres par mois qu'on distribue dans 92 bars différents de Bangalore.
Bangalore, la Silicon Valley indienne, attire un grand nombre d'Indiens et d'expatriés ayant vécu dans le monde entier. Une concentration à l'origine de la soif que la ville s'est trouvée pour la bière artisanale. Mais d'autres raisons expliquent la démesure du phénomène, notamment le succès mondial des bières IPA, India Pale Ale, qui trouvent leur origine ici, du temps des colons britanniques. André Leblanc est ancien consultant en bière en Belgique, aujourd'hui installé à Bangalore.
À Bangalore, c'est historique, donc il y avait beaucoup d'Anglais sur place et l'IPA, comme la mode de l'IPA d'aujourd'hui, India Pale Ale, est relié à Bangalore à ce niveau-là. Il faut dire que la bière anglaise, début du 19e siècle, c'était la Pale Ale. Les militaires qui travaillaient en Inde avaient de la bière importée de l'Angleterre, mais avec le long trajet, il y avait des problèmes, il y avait beaucoup d'oxydation dans la bière était mauvaise. IPA, ils ont créé ça pour ici parce que les Anglais se sont rendus compte que le houblon préservait la bière et aussi l'assainissait.
Au-delà du lien avec le passé colonial de la ville, des contraintes législatives ont aussi favorisé ce boom des brasseries de Bangalore.
On se rend compte que les taxes sont plus élevées, donc c'est moins cher brasser sa bière dans un établissement que la vendre à des cafés pour qu'ils la servent aux clients. Oui. Depuis 2009, la première à Bangalore, il y en a plus de 60 aujourd'hui. Et j'en connais au moins une bonne dizaine encore qui sont en projet.
La législation de l'État de Bangalore impose une superficie minimum de 1000 m² pour tout établissement souhaitant obtenir une licence de brasseur. D'où la taille démesurée des établissements de la ville, dont certains brasseraient d'ailleurs autant d'argent noir que de houblon, murmure un expert sous couvert d'anonymat. Selon les études, le marché de la bière en Inde devrait connaître une croissance de 8 à 10% par an. Le Canadien Martin Bernard s'en frotte les mains.
Comment vous voyez la scène de la bière à Bangalore dans 5 ans?
Probablement 100 microbrasseries. J'espère que... Maintenant j'en ai 3, j'espère que j'en aurai 5. C'est ici qu'il y a le plus de bouleversements, qu'on trouve le plus de bières différentes. Mais d'ici une dizaine d'années, probablement qu'il y aura autour de quoi 1000 microbrasseries en Inde.
Bon, ben, je vous propose de se faire une petite mousse.
Ah oui, s'il vous plaît.
Toujours à consommer avec modération, bien entendu. Avec Combastin, en ligne depuis Bangalore, on était ensuite revenu sur ce terme de microbrasserie.
Oui, c'est vrai qu'en France, c'est une petite usine qui produit de la bière et la vend à des bars. Ici, on parle d'établissements qui vendent la bière qu'ils brassent directement sur place. C'est donc à la fois des brasseries, au sens propre du terme, et des bars.
Oui, on retient aussi que leurs tailles n'ont rien à voir avec du micro.
Oui, à Bangalore, de nouveaux quartiers sortent de terre chaque année. Un foncier énorme est disponible pour imaginer des établissements démesurés pour pas très cher. Et puis, il s'agit de contourner la fiscalité élevée sur le marché de l'alcool en Inde. En vendant la bière qu'on a soi-même produite, on évite beaucoup de taxes d'importation.
Avant cette vague de brasseries, est-ce que les Indiens buvaient déjà de la bière?
Bien sûr, mais c'était surtout la Kingfisher, une bière blonde industrielle qui inondait tout son continent. Son fondateur, Vijay Mallya, est devenu milliardaire. Il a même lancé une compagnie aérienne au nom de sa marque de bière, qui n'a finalement jamais décollé. Aujourd'hui, il a dû fuir l'Inde suite à des déboires avec l'administration fiscale. À Bangalore, on trouve d'ailleurs un gratte-ciel baptisé
Kingfisher Tower, qui a longtemps fait la fierté de la ville. Vijay Mallya s'est fait construire une réplique de la Maison Blanche sur son toit, mais aujourd'hui, ce palais un peu kitsch, perché à 130 mètres de haut, est vide, alors que partout dans la ville s'ouvrent de nouvelles brasseries, tout un symbole.
Et voilà un petit voyage inattendu dans ce nouveau repère de la bière, à Bangalore, en Inde. Et je vous propose tout de suite un autre voyage assurément dépaysant. Venise, rien que pour vous, car Venise vide pendant le confinement. A tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Vous écoutez les meilleurs moments des carnets du monde jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Sophie Larmoyer. Et l'on revient sur ce moment au printemps où tout s'est arrêté. Un à un, à quelques rares exceptions, nos pays se sont confinés pour tenter d'enrayer la propagation du virus. Un confinement parfois riche en enseignements.
Ces derniers mois, dans les carnets, on s'est intéressé en particulier à Venise, la ville aux 30 millions de touristes par an et qu'il est rarissime de voir vide. Le confinement a été extrêmement sévère en Vénétie, très durement touchée par l'épidémie. Et puis, doucement, quelques commerces ont commencé à rouvrir. Les Vénitiens ont pu sortir et se déplacer un tout petit peu plus loin de leur zone de ravitaillement. Nous étions fin avril, juste avant le début du déconfinement de la région. Et j'avais alors appelé une Française qui vit à Venise. Arielle Buteau, c'est son nom, est une ancienne journaliste de France Musique, elle-même musicienne et aujourd'hui auteure. Comment imaginait-elle la suite de l'histoire? Le modèle économique du tourisme de masse pouvait-il perdurer? Arielle Buteau était alors convaincue que l'épidémie allait marquer durablement la ville de Venise. À la veille du déconfinement, elle était pleine d'espoir. Écoutez.
L'espoir renaît, c'est tout simple. C'est que, en ce qui me concerne, depuis plus de 40 jours, je vis à peu près sur mon balcon au-dessus d'un joli canal à Venise. Et je sens les odeurs du printemps qui arrivent, je vois les oiseaux. Voilà, il y a ce printemps qui est là, qui est à la fenêtre et auquel on a très peu accès. Donc c'est vrai qu'on a tous envie de sortir, de vivre notre vie, d'être vivant.
Ça permet d'essayer de regarder un petit peu devant tout ça et puis de réfléchir à ces plus de 40 jours dont vous parliez. Vous avez vu la ville changer du tout au tout, se vider, devenir extrêmement silencieuse, retrouver aussi des bruits et des odeurs que vous n'entendiez plus, que vous ne sentiez plus.
Alors c'est très bizarre ce qui s'est passé à Venise. En fait, le mouvement a commencé avant le confinement. Il a commencé lors de la très grande Acqua Alta dont les images ont fait le tour du monde. C'était dans la nuit du 12 au 13 novembre dernier. L'eau est montée à presque 1,90 m, c'est considérable. Et à partir de là, c'est vrai que les touristes sont partis et ne sont plus vraiment revenus. Donc ça nous a fait des vacances, faut bien le dire. Et en fait, pour moi, Venise, c'est une métaphore de ce que nous vivons en général. C'est une métaphore du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on était tous lancés à une espèce de train d'enfer en voulant toujours plus de profit, plus de croissance, plus de consommation, plus de voyages, plus de pollution, plus. En ayant complètement oublié de regarder ce qu'on avait sous le nez et qui parfois était formidable et pouvait largement suffire à notre bonheur, j'avais le sentiment d'être dans un train fou. Et très souvent, je me disais, je voudrais descendre du train, en fait. Laissez-moi descendre de ce train-là. Je ne veux pas de ça, quoi.
Qu'est-ce que le confinement a permis, du coup ?
Tout s'est arrêté du jour au lendemain. Imaginez un TGV lancé à vitesse maximale qui s'arrête d'un coup en rase campagne. La ville s'est entièrement vidée. Il n'y a plus que les Vénitiens qui sont confinés. Donc, quand vous sortez dans la rue, en fait, il n'y a personne. Et d'un coup, tout s'est figé, quoi. En plus, les bateaux à moteur sont interdits depuis le confinement. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? La ville est devenue extrêmement silencieuse. Le ciel est devenu magnifiquement pur parce qu'il n'était plus perpétuellement zébré par les avions qui nous passent au-dessus de la tête en permanence en temps ordinaire. Voilà, l'eau est redevenue à peu près propre, en tout cas extrêmement plate, extrêmement calme. Évidemment, les grands navires, on n'en entend plus parler et je pense qu'on n'est pas près de les revoir. On entend des oiseaux comme jamais on en a entendu. On entend les bruits de la vie quotidienne comme on ne les entendait plus aussi.
La cuisine du voisin.
Tout. Moi, par exemple, j'ai des très vieux voisins qui ont. C'est un vieux couple, ils ont 94 ans. Et je dois dire que chaque matin, je suis rassurée de les entendre parler, marcher.
Tout ça, c'est plutôt bien, non ?
Oui, c'est-à-dire qu'on a tous nos sens qui fonctionnent. Avant, on était dans une espèce de pollution visuelle et sonore avec tous ces magasins de verroterie qui, non seulement, sont extrêmement laids, en plus, pur scandale, restent allumés avec des néons toute la nuit, alors qu'il n'y a rien de plus beau que la douceur de la vie vénitienne avec ces réverbères qu'on a avec une lumière jaune très jolie. Enfin bon, la pollution sonore aussi, parce qu'évidemment, tout ça fait un bruit effroyable et tous ces magasins sont toutes portes ouvertes avec des musiques à un temps qui vous cassent le crâne. Donc là, c'est vrai que on n'a plus de pollution atmosphérique, donc on ressent les odeurs, tout simplement. Donc ces odeurs de printemps, ces odeurs de cuisine, comme vous dites, ces odeurs de lessive aussi. Les gens ici continuent à suspendre le linge aux fenêtres. Il n'y a plus de pollution sonore, il n'y a plus de pollution atmosphérique, il n'y a plus de pollution visuelle. C'est-à-dire que tous ces magasins qui étaient absolument affreux sont fermés aujourd'hui. À la place, on voit des rideaux de fer. Et du coup, bah, l'œil se pose sur cette Venise qui est quasiment inchangée depuis des siècles et des siècles.
Du coup, est-ce que paradoxalement, vous craignez un petit peu que le déconfinement qui va vous permettre de sortir de cet isolement vous ramène vers le monde d'avant et la folie que vivait Venise avant ?
Alors d'abord, je pense que le déconfinement à Venise, ça va être très compliqué. Parce que très concrètement, la plupart des rues font à peine 2 mètres de large. Donc la distance sociale, c'est pas possible ici. Quand la ville va se remplir à nouveau, je sais pas du tout comment on va faire. Ça ne va pas être possible, en fait. Après, moi, ce dont je rêve, c'est de la Venise d'il y a encore 20, 25 ans, dont beaucoup de gens se souviennent ici. Je parle des Vénitiens avec nostalgie. C'était une ville qui accueillait beaucoup de tourisme, déjà. Mais d'abord, ce n'était pas un tourisme qui arrivait par gros navires entiers avec des débarquements de plusieurs milliers de personnes. Il n'y avait pas autant d'avions. Il n'y avait pas toutes ces compagnies à bas coût qui déversaient des voyageurs en grand nombre comme ça. Maintenant, il y a eu ce surdéveloppement des Airbnb, par exemple. Et il faut savoir que se loger, trouver un appartement à louer à Venise avant la crise en contrat de résidence, c'est-à-dire en contrat long, en contrat normal, c'était devenu la croix et la bannière. C'était quasiment impossible. On voit bien, parce que moi je reçois des annonces d'agences immobilières, des gens que je connais, etc. On voit bien que ça y est, les Vénitiens qui avaient fait le choix de ne louer qu'à des touristes commencent à remettre leurs appartements dans le circuit des résidents. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que si on peut à nouveau se loger à Venise, il y a des Vénitiens qui ont dû quitter Venise, qui sont expatriés sur la terre ferme, et ils le vivent vraiment comme une expatriation. Ces gens-là pourront revenir.
Vous vous dites que Venise est peut-être en train d'écrire le monde de demain, vous écrivez ça.
Oui, alors ça c'est... Je dis ça parce que je fais référence à la vie quotidienne qu'on a en ce moment. Les Vénitiens ont une histoire compliquée. La construction même de cette ville, il y a plus de 1000 ans, c'était vraiment pour se mettre à l'abri. C'était une utopie. C'était Le Corbusier qui disait que Venise, c'était une ville qui avait été construite par des gens qui voulaient simplement bien vivre ensemble. Et bon, ils l'ont vraiment tiré de la lagune. C'est une ville qui est en partie construite sur des poteaux de bois qu'on est allé chercher dans les forêts, sur la terre ferme, dans les montagnes. Donc c'est une ville très très singulière, et c'est une ville qui a connu par le passé des grandes épidémies de peste, de choléra, qui a eu des tas de soucis. Enfin bon, et c'est une ville qui s'en remet toujours, en fait. C'est une ville très résiliente. L'Acqua Alta, dont on a parlé en novembre, a fait le tour du monde, mais en réalité, je pense que ça a plus effrayé les gens à l'extérieur que les Vénitiens eux-mêmes. Les Vénitiens, bon ben voilà, c'est arrivé. Le lendemain, ils retroussaient leurs manches, ils jetaient, ils rangeaient, ils pompaient. L'eau est revenue 2 jours après, ben rebelote, ils s'y sont mis, les jeunes ont aidé. Enfin, voilà, il y a toute une réactivité, en fait, très solidaire, avec beaucoup de bon sens, qui se met en place immédiatement. Et là, ça a été le cas. Par exemple, on est très bien nourri en ce moment par la production agricole des îles de la Lagune. Il y avait des gens, des Vénitiens, qui préféraient aller à Metz autrefois parce qu'ils trouvaient que c'était moins cher, donc ils prenaient leur bus ou leur voiture. Là, c'est plus possible, on n'a plus le droit. Il y a des militaires et des carabiniers à l'entrée du pont, et on quitte pas Venise. On est vraiment en quarantaine. Et donc, il y a des barques, des bénévoles souvent, des barques à rames qui vont chercher les légumes dans la lagune et qui les ramènent, et on peut les consommer ici. Enfin,
et ça va laisser des traces.
Bah, j'espère, en plus, on rêve tous. Ouais. Enfin, quand on rêve du monde de demain, on se dit, bah oui, ce serait génial de consommer local, de produire local, d'avoir une pollution zéro. Bah, là, on y est. Il y a des gens qui vont en barque chercher les légumes dans la lagune. C'est un modèle parfait, en fait. Ça marche bien, quoi. Ça marche bien. Il y a vraiment un équilibre à trouver, à retrouver, entre pas du tout de touristes, ce qui serait vraiment dramatique pour Venise, et trop de touristes comme avant, qui de toute façon étaient dramatiques. On est arrivé à saturation. Actuellement, on est, je pense, 52 000 habitants. C'est le chiffre officiel, c'est un petit peu moins même. Avec Venise et les îles. On est les îles, donc Burano, tout ça. Et on est à presque 30 millions de touristes. C'est complètement fou, en fait. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est pas d'avoir encore des rues vides, c'est d'avoir encore des Vénitiens à Venise. Et ce qui me rend optimiste, c'est que c'est une ville qui s'est toujours relevée. Et puis là, on est allé un peu loin, et j'espère qu'on va remettre le curseur à un endroit raisonnable. Mais bon, ce sont des vœux. Je sais qu'ici, à Venise, il y a beaucoup de gens qui y réfléchissent. On a une mairie qui fait des déclarations vertueuses à la presse étrangère, ce qui agace beaucoup les Vénitiens, parce qu'en fait, on sait très bien que dans le même temps, c'est une mairie qui a très envie de faire revenir les choses telles qu'elles étaient avant. Donc on ne sait pas trop où on en est. Maintenant, il y aura bientôt des élections à Venise. Les choses peuvent changer.
Peut-être que cette crise va changer des choses.
Oui, bien sûr qu'elle va changer des choses. Et puis on a quand même une chance à Venise. C'est que les gens qui vivent ici sont des gens qui sont amoureux de leur ville. Et il y a des associations, notamment de jeunes, mais pas que de jeunes, enfin vraiment de gens qui réfléchissent, qui brassent des idées. Il faut être réaliste. Les gens qui vivent du tourisme vont avoir besoin de retrouver des sources de revenus. Mais je pense que ces mêmes personnes qui vivent du tourisme se rendent compte que la monoculture du tourisme les met dans un effroyable danger et surtout est en train de détruire la ville.
On dit tous qu'il y aura un avant et un après Covid-19. C'est un petit peu plus vrai peut-être à Venise qu'ailleurs.
Ah, je pense, oui. Je vois vraiment pas, en étant vraiment le plus rationnel possible, je vois pas comment on pourrait revenir aux excès d'avant. Ne serait-ce que pour des raisons sanitaires. Ça va pas être possible, en fait. On peut pas continuer à entasser les gens dans les vaporetti, on peut pas continuer à les entasser dans les rues. Enfin, il y a certains quartiers de Venise où, en haute saison, vous ne pouvez pas passer. Et puis, le moindre événement, la moindre fête... provoque vraiment des amas de gens, des foules place Saint-Marc, etc. Et je pense que ça va tout simplement plus être possible pendant très très longtemps. Et donc du coup, pendant toute cette période où ce ne sera pas possible, il va bien falloir trouver d'autres moyens de vivre et de survivre. Donc je pense qu'on va développer d'autres manières de faire. Et j'espère que ces manières de faire seront raisonnables, respectueuses de cette ville qui est tellement... C'est un joyau, quoi. Mais c'est un joyau qui ne nous appartient pas. C'est exactement comme la planète. C'est un joyau dont on a hérité, qui a une histoire très longue, et qu'on doit remettre en bon état aux générations futures. Venise n'est pas de passage. Nous, on est de passage dedans.
Arielle Buteau, auteure et habitante d'une ville convalescente, et qui décrit une ambiance nouveau monde, hein, pas fin du monde. Venise allait-elle réussir à se réinventer grâce, entre guillemets, à l'épidémie? Et comme un symbole, préfigurer le monde d'après que beaucoup appellent de leur vœu. J'ai rappelé Arielle Buteau quelques semaines plus tard, début juin, et elle n'était plus très optimiste.
Ça s'est passé en deux temps. Il y a eu une phase où on sortait, mais bon, il y avait essentiellement les Vénitiens qui étaient là, qui récupéraient leur espace, leurs habitudes, qui se retrouvaient, les enfants qui jouaient dans la rue, les gens sur les bancs, etc. Bon, c'était très sympathique. Et puis, il y a eu un week-end très long ici, qui était le week-end de la Pentecôte et de la fête nationale, où les gens de Vénétie sont venus en masse à Venise parce qu'on les y avait fortement incités. Et bon, pourquoi pas, ils avaient raison de venir, je comprends, après toutes ces semaines tellement difficiles. Le problème, c'est que ça a été tellement mal fichu qu'en fait, on a eu on était entassés dans les rues, entassés dans les vaporetto. Il n'y avait plus aucune distance de sécurité qui tenait et on n'a pas compris parce que le confinement ici a été extrêmement strict avec des amendes extrêmement salées pour des choses ridicules comme se balader à plus de 200 mètres de chez soi, ganté, masqué. On prenait des amendes à 280 euros, vous voyez. Ouais. Et là, d'un coup, tout le monde est entassé. Donc, on ne comprend pas très bien.
Alors qu'il y a par ailleurs des règles extrêmement strictes encore dans les restaurants, etc. Quoi.
Oui, c'est-à-dire si vous allez au restaurant avec quelqu'un, on vous demande tout de suite si vous habitez avec cette personne. Vous ne pouvez pas toucher la carte. Enfin, c'est très, très, très strict encore. On n'a pas le droit de se balader en groupe. Enfin, voilà. Et en même temps, ce qu'on a vécu là ce week-end, c'est une violation de toutes ces règles-là, en fait.
Et ça, est-ce que ça veut dire que le tourisme de masse, dont beaucoup d'entre vous, Vénitiens, espériez qu'il n'allait pas reprendre, est en train de reprendre, que les boutiques ont repris leurs habitudes, leur bruit, leur pollution sonore, etc.
Oh ben on a tout, la pollution sonore, la pollution visuelle. Voilà. Et c'est vraiment dommage, parce que pendant le confinement, quand seules les boutiques dites nécessaires étaient ouvertes, on se rendait compte quand même que si on avait eu un peu plus d'épiceries, un peu plus de commerce de proximité, un peu plus de petites choses pour les Vénitiens, ça n'aurait pas été plus mal.
Vous nous aviez dit pendant le confinement, votre espoir partagé par beaucoup d'habitants de Venise, que ce serait différent après et que les nouvelles habitudes de télétravail, etc., inciteraient à créer une autre manière de faire du tourisme. Les Vénitiens se mobilisent aujourd'hui face à ce week-end dernier dont vous nous avez décrit les foules, là, le côté le grand n'importe quoi.
Oui, ils se mobilisent tellement que juste après, le lendemain, je crois, ou le surlendemain du week-end, il y a eu un flash mob devant l'hôpital. pour protester justement, enfin pour protester, pour attirer l'attention en tout cas sur la situation. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, il y a un manifeste qui a été signé, que j'ai signé d'ailleurs par des gens de la société civile qui vont présenter une liste. C'est pas pour être contre le tourisme, c'est simplement pour revenir à quelque chose d'équilibré où les touristes pourraient vraiment visiter cette ville et avoir un touriste qui s'intéresse vraiment à cette ville et pas seulement à faire du shopping ou aller chez McDo, et où les Vénitiens pourraient vivre une vie normale. Enfin, dans les années 80, dans les années 90, il y avait un équilibre. Il y avait beaucoup de tourisme, mais il n'y avait pas cette monoculture du tourisme, il n'y avait pas ce tourisme invasif.
On a l'impression que vous vivez un chagrin d'amour. Hein.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est nombreux, on s'est dit c'est merveilleux, on sait que ça ne va pas durer, on sait que ça ne peut pas durer. Mais en fait, je pense qu'on y a tous un peu cru. Voilà, c'est un amour perdu en fait, qu'on est en train de vivre. Et on va essayer, j'espère, avec des gens de bonne volonté, que cet amour perdu devienne peut-être le transformer entre une belle amitié. C'est ce qu'on fait en général, non? C'est ce qu'on essaye de faire.
Voilà, Arielle Buteau, habitante de Venise, amoureuse de sa ville, et dont vous pouvez retrouver les très jolies chroniques à propos de Venise sur le site du magazine québécois L'Actualité. Par ailleurs, des élections municipales sont programmées pour l'instant pour septembre, et ce sujet du surtourisme sera sans doute central dans les choix que feront les habitants. À suivre, une petite chronique bien choisie de notre ami Joseph Chovanec.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec Sophie Larmoyer, on écoute Le Monde changer comme tous les dimanches de 13h à 14h sur Europe 1. Et durant tout l'été, on va boucler ces carnets du monde avec une chronique de Joseph Chovanec. Il est le philosophe de la bande, grand voyageur et autiste Asperger.
Et notre ami Joseph n'a pas attendu le confinement pour devenir un adepte du vélo. Quand il nous en a parlé, il était loin, très loin, en Nouvelle-Calédonie.
Ce n'est pas si simple que ça, l'heure de vous faire un aveu. Je n'ai appris à faire du vélo qu'il y a 2 ans et demi. Quand j'étais petit, certes, mes parents avaient essayé de m'apprendre, mais cela s'était fini en, si j'ose dire, bain de sang.
Wow. Hein.
Ce n'est que durant mon séjour dans l'état de Niue, toujours lui, mon pays préféré, cette superpuissance au cœur du Pacifique de 1200 habitants, hein, que j'ai franchi le pas. Hein. Le premier jour, avec mon vélo, j'ai dû faire quelques mètres à peine. Mais le surlendemain, je me suis élancé sur les routes de l'île.
Ouais, c'est comme les langues, hein. Vous apprenez tout très vite, vous.
En tout cas, j'y pense beaucoup, hein, au vélo. Quand j'arrive dans un endroit nouveau, je cherche à connaître le prix du kilowattheure d'électricité à cause du minage des crypto-monnaies, mon hobby secret, hein, et la façon de louer un vélo à l'endroit en question. Hier, mes amis calédoniens qui m'accueillent ici ont commencé à pousser de grands soupirs en m'entendant à nouveau parler du vélo. C'est devenu un centre d'intérêt autistique.
Bah, du coup, vous en avez loué un ?
Pas si facile. Hein. Cette procédure de location de vélo en dit déjà à elle seule beaucoup sur le pays où vous êtes. Passons sur les pays bureaucratiques de plus en plus nombreux où on voudra pièces d'identité, carte bancaire, que sais-je, rédhibitoire. À Svalbard, tout à fait près du pôle Nord, on loue avec le vélo une carabine en cas d'attaque d'ours polaire.
Ah oui. Hein.
Sans surprise, ma procédure préférée de location, c'est celle de l'état de Niue. Hein. Les vélos sont posés devant la maison polynésienne. Il suffit de prendre celui que l'on veut. Hein. Il y a toujours moyen de s'arranger ultérieurement pour le paiement. Un pot de miel, par exemple.
Hein. Vous en avez déjà fait dans le pays du vélo par excellence, la Hollande ?
Ah oui, Sophie, j'y ai même vécu une situation touchante cet été. Hein. La Hollande est submergée de touristes, mais ils restent tous à Amsterdam. Il faut aller dans les localités rurales, par exemple à Den Helder, où j'étais, dans le petit gîte. L'accueil a été formidable. Alors, bien sûr, je me suis mise à parler de vélo à l'une des dames. Hein. Et surprise, elle m'a prêté gratuitement, sans me demander quoi que ce soit, un vélo. Hein. Ce fut une fabuleuse journée. J'en suis rentré crevé.
Les pneus crevés ou très fatigués ?
Très fatigué, hein, parce qu'aux Pays-Bas, royaume du vélo par excellence, la route véritable n'est pas celle des voitures, mais des vélos.
Ouais.
Dans les gares, le parking le plus grand, le plus rempli, n'est pas celui pour les voitures, mais pour vélos avec des dispositifs technologiques étonnants pour ranger le plus de vélos possible. À nombre d'endroits, il y a une signalisation routière spéciale vélo. Un point qui m'a interpellé, l'attitude des chiens. Dans la plupart des pays du monde, les chiens sont fascinés par les vélos et leur cours après. Normal, ils aiment regarder les roues tourner comme nous autres les autistes. Mais aux Pays-Bas, non, les chiens sont parfaitement indifférents. Ouais. Il faut dire qu'ils s'épuiseraient vite.
C'est juste parfait pour qui aime circuler à vélo.
Ah non, Sophie, ce n'est pas le paradis. Pour une raison simple, c'est que les autochtones y circulent à une vitesse hallucinante. Ouais. Ça donne un sentiment de danger, mais aussi, qu'on se l'avoue, une sorte d'humiliation permanente pour les mauvais cyclistes comme moi. Mmh. Quand on transpire péniblement pour avancer, on se fait constamment doubler à la vitesse de l'éclair. Ouais. J'ai enfin visité cet été l'île de Texel. C'est une île néerlandaise en mer du Nord. Ouais. Et même scénario, un peloton de cyclistes qui me laisse dans la poussière dès que le feu pour cyclistes passe au vert. Sauf que cette fois, j'avais un lot de consolation. Deux cyclistes semblaient ne pas pouvoir suivre les autres et se traînaient péniblement derrière. Ouf, pour une fois, je me suis dit, je ne suis pas le dernier. Sauf qu'en passant à hauteur des deux cyclistes, j'ai remarqué qu'ils se parlaient en français.
Oh, comme c'est vilain de se moquer comme ça, Joseph, vous n'avez pas honte?
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet.
Voilà, et bonne balade à vélo à tous cet été. Merci de nous avoir accompagnés. C'est l'heure de refermer ces carnets d'été. C'est toujours Marc Fréjean à la réalisation, Florence Gimalak qui m'aide à préparer l'émission. Et on vous prépare d'autres meilleurs moments à réécouter ensemble dimanche prochain. Et d'ici là, profitez les uns des autres, de l'été aussi, et puis portez-vous bien.
C'était Sophie Larmoyer.